Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 24 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Le président de la transition au Mali, Bandao, a rencontré à Bamako Goodluck Jonathan, l'émissaire de la CDAO. 75e Assemblée Générale de l'ONU par visioconférence. Les présidents nigériens et ivoiriens se sont exprimés ce jeudi, entre autres dirigeants. États-Unis, deux policiers blessés par balle à Louisville lors de manifestations sur le traitement par la justice de l'affaire Breonna Taylor. Face à une recrudescence de cas de Covid-19, plusieurs pays renforcent les restrictions dues à la pandémie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Au Mali, la délégation de la CDAO dirigée par Goodluck Jonathan a accepté le choix porté sur Bandao comme président de la transition et le colonel Assimi Goïta comme vice-président qui seront investis vendredi à Bamako. Après avoir échangé avec M. Ndao, la délégation a rendu visite à Kati aux personnalités politiques arrêtées suite au coup d'État du 18 août. Le point avec Kassim Traoré sur place.
Deux rencontres. La première, c'était dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des Anciens Combattants avec le Conseil National pour le Salut du Peuple, CNSP. La seconde, avec le président de la transition au niveau de la Villa des Hôtes à l'ex-base aérienne. Tels ont été les temps forts de cette deuxième journée de la mission de la CDAO avec les militaires. Il a été question de l'évaluation des recommandations du mini-sommet de la CDAO tenu à Accra le 15 septembre dernier. La délégation a compris et accepté le choix porté sur le colonel-major Bandao comme président de la transition et le colonel Assimi Goïta comme vice-président. Après les échanges avec le CNSP, la délégation a pris la route de la Villa des Hôtes. C'est un Bandao très souriant qui les a accueillis. Les échanges entre la délégation et le président de la transition ont porté sur la cérémonie d'investiture de demain, le déroulement et surtout les orientations de la CDAO avant la prise de fonction de Bandao. À la suite des deux rencontres, les missionnaires de la CDAO n'ont pas voulu faire de commentaires. Ils préfèrent attendre demain la cérémonie d'investiture pour se prononcer sur la situation au Mali. Un comité de suivi aussi sera mis en place. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Assemblée des parlementaires de la francophonie a demandé la libération du chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé il y a 6 mois alors qu'il faisait campagne dans le nord-ouest du pays. Sa détention constitue une entrave grave aux principes démocratiques, a déploré l'APF. Les soupçons de l'enlèvement pèsent sur le groupe djihadiste d'Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda. Troisième journée de la 75e Assemblée générale de l'ONU avec plusieurs discours de chefs d'État africains. Mamadou Issoufou du Niger et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire ont ouvert la session par message vidéo. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour. En République démocratique du Congo, au moins 5 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ADF dans la région de Beni. Ce jeudi matin, 5 corps ont été retrouvés à Mutuanga après une attaque la nuit dernière. Mais dans l'après-midi, le nombre de morts est passé de 5 à 11, selon l'administrateur du territoire de Beni, Donat Kibwana. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a condamné l'interpellation de 8 reporters et les violences commises contre certains lors de manifestations mardi. Tous ont été remis en liberté. Eric Manirakiza a joint à Douala le journaliste de la chaîne de télévision My Media Prime, Tajavismai.
Donc j'étais là avec mon collègue, il est avec le camarade, et quand on a lancé l'appel au studio, les membres de sécurité, gendarmerie nationale ont intercepté. Et là, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, je lui ai dit que nous sommes les journalistes et nous faisons le travail. Alors, je lui ai présenté le badge de mon média. Et ils ont nous pris à aller à une station à Mabanda. Et là-bas, on a demandé un peu de questions. Qu'est-ce que vous voulez? On a une accréditation. Donc, je t'ai demandé que je suis un média national. Je fais quoi avec l'accréditation pour trouver quelque chose dans mon pays, parce que je ne suis pas un média international pour prendre des accréditations pour venir dans un pays. Donc, c'est là-bas qu'on a envoyé à Brigade Maritime, à Brigade Maritime. On m'a molesté là-bas, mais on m'a menacé là-bas. Et après mon pays, on a nous abandonné dans Maritime. C'est là-bas que tout était bien.
Le journaliste Tajar Vismaï était joint à Douala au Cameroun. Le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo a accueilli ce jeudi 4 homologues ouest-africains pour les cérémonies du 46e anniversaire de l'indépendance du pays. Il s'agit des présidents nigérians Mohamedou Bouhari, sénégalais Macky Sall, mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et burkinabé Roch Marc Christian Kabore. 2000 personnes sont poursuivies en Éthiopie dans le cadre des violences après le meurtre en juin d'un chanteur Oromo, a indiqué l'avocat général. Plus de 9000 personnes, dont des journalistes et des leaders d'opposition, avaient été arrêtées en masse lors de ces violences entre diverses communautés. Près de 830 000 personnes sont affectées par les inondations dévastatrices au Soudan, a affirmé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Par ailleurs, 166 000 habitations ont été détruites ou endommagées par les pluies diluviennes depuis mi-juillet. 124 personnes sont décédées et 54 ont été blessées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, deux policiers ont été blessés par balle et un suspect a été interpellé à Louisville dans le Kentucky, théâtre de manifestations liées à la mort en mars de Breonna Taylor, une afro-américaine tuée chez elle par la police. Mohamed Oumfa.
Deux agents de police ont été blessés hier par balle. Ils sont en train d'être soignés à l'hôpital University, a précisé le chef par intérim de la police de Louisville, Robert Schroeder, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que leur état est stable et que leur vie n'est pas a priori menacée, même si l'un d'eux a subi une intervention chirurgicale. Tout est parti des manifestations de rue qui se sont déclenchées hier pour dénoncer un traitement judiciaire trop clément pour les policiers qui ont tué le 13 mars dernier Breonna Taylor, infirmière africaine-américaine de 26 ans. Aucun chef d'inculpation n'a été retenu contre les deux policiers qui auraient tiré et tué la victime chez elle. L'autre membre du trio est seulement poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Le président Donald Trump a déclaré prier pour les deux agents de police blessés et s'être entretenu avec le gouverneur démocrate Andy Beshear, avec qui il s'est dit prêt à travailler. Son rival, Joe Biden, a dit comprendre la frustration, mais a dans le même temps appelé au calme.
À moins de deux mois de l'élection présidentielle américaine, YouTube a commencé à ajouter du contexte aux vidéos évoquant le vote par correspondance afin de réduire la propagation de la désinformation. Lors de recherche d'une vidéo sur un candidat, la plateforme proposera automatiquement aux internautes des informations pratiques sur le processus électoral. Pandémie de coronavirus, l'Union européenne appelle à durcir les mesures de contrôle face au risque d'une seconde vague. Les États-Unis comptent plus de 200 000 morts. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Près d'un million de morts dans le monde, une seconde vague qui semble très probable en Europe. L'Union européenne a appelé aujourd'hui ses États membres à durcir leurs mesures de contrôle immédiatement. En Russie, Moscou a enregistré aujourd'hui son plus grand nombre de nouvelles contaminations quotidiennes depuis fin juin. En Israël, le confinement a été durci avec la fermeture des synagogues et la réduction des heures d'ouverture des commerces. Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché avec bientôt 7 millions de cas et près de 200 000 décès. S'exprimant devant le Congrès, le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche, a fait part de son optimisme croissant, citant les avancées des laboratoires Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Le docteur Fauci pense que les scientifiques trouveront un ou plusieurs vaccins sûrs et efficaces d'ici la fin de l'année ou au début de 2021.
la Jordanie, l'Égypte, la France et l'Allemagne, ainsi que le représentant de l'Union européenne pour la paix au Proche-Orient, ont exhorté ce jeudi, à l'issue d'une réunion à Amman, Israéliens et Palestiniens à redonner de l'espoir au processus de paix en lançant des négociations directes sérieuses. L'effondrement d'un immeuble survenu lundi dans l'ouest de l'Inde a fait 41 morts et les recherches ont été stoppées, ont annoncé les autorités. Les secouristes sont parvenus à extraire vivantes 20 personnes des décombres de cet immeuble résidentiel de 3 étages à Bhiwandi, près de Mumbai. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Burkina Faso a inauguré mardi une usine de production et d'assemblage de panneaux solaires, la première en Afrique de l'Ouest. Elle a été construite à 3,2 milliards de francs CFA dans la zone industrielle de Kossodo, au nord de Ouagadougou. Baptisée Faso Énergie, cette usine aura une production journalière de 200 panneaux solaires. La production annuelle permettra d'installer une puissance de 300 MW, soit 3% de la consommation du pays. À Madagascar, les opérateurs touristiques durement affectés par le coronavirus n'espèrent que 5 à 10% de visiteurs sans les vols internationaux. Par ailleurs, le chômage pousse les villageois à abattre illégalement des arbres pour en faire du bois de chauffe et pour gagner de l'argent, d'après Pascal Pierre, président de l'Association des guides forestiers d'Ondassibé. Cela détruit un écosystème fragile dont dépend le tourisme, qui représente 7% de l'économie malgache. Pour terminer, ici aux États-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière à 870 000 contre 860 000 la semaine d'avant, selon les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Les analystes ne s'attendaient qu'à 825 000 demandes, soit une hausse de 4 000. Cette augmentation suggère que le rétablissement du marché de l'emploi, affecté par les mesures de confinement, s'effectue plus lentement que prévu.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura pour ce journal des sports. Le milieu international burkinabé Salifou Diarra Souba de l'ASEC Mimosa, âgé de 23 ans, un des meilleurs joueurs du championnat ivoirien la saison passée, s'est engagé avec Saint-Gall en Suisse. « Je me lance dans une nouvelle aventure que j'espère longue et belle », a-t-il déclaré sur le site de l'ASEC. Diarra Souba, considéré comme une pépite du centre de formation de l'ASEC, a signé 5 buts et 7 passes décisives la saison dernière. L'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valke, le patron de Bing et du PSG, Nasser Al-Khelaifi, connaîtront leur sort judiciaire le 30 octobre après la clôture ce jour même de leur procès en Suisse dans une affaire de droit télévisé. Le tribunal pénal fédéral de Belenzone a mis sa décision en délibéré après 10 jours d'audience consacrée à l'un des multiples scandales du foot mondial. L'UEFA annonce que la règle des 5 changements mise en place à l'été après l'interruption des matchs pour cause de COVID-19 sera appliquée cette saison en Ligue des Champions et Ligue des Nations. Le cas de l'Euro restant, lui, à trancher. L'UEFA a en effet fait savoir qu'une autre décision sera prise ultérieurement concernant l'Euro 2020, reprogrammé en juin-juillet 2021. L'attaquant uruguayen Luis Suarez, âgé de 33 ans, qui a rejoint l'Atlético Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi, a assuré en larmes être fier d'être entré dans l'histoire du FC Barcelone lors de sa cérémonie d'adieu au club organisé ce jeudi à Barcelone. Arriver ici et jouer au Barça est un rêve devenu réalité. Parvenir aux chiffres auxquels je suis parvenu, je ne l'imaginais pas, a déclaré Suarez, troisième meilleur marqueur de l'histoire du club catalan, avec 198 buts derrière César Rodriguez et Messi. Je suis fier d'être entré dans l'histoire de ce club, d'être le troisième meilleur marqueur et de m'en aller de la manière dont je m'en vais, a souligné Suarez, devenu depuis 2014 l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du club Blaugrana et qui a dû essuyer ses larmes avant de parler.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La 75e Assemblée générale des Nations unies se poursuit virtuellement. À cause de la pandémie de coronavirus, les discours des chefs d'État sont faits par message vidéo. Les présidents du Niger et de la Côte d'Ivoire se sont adressés à l'Assemblée ce jeudi matin. Mais Alassane Ouattara ne s'est pas étendu sur les élections du 31 octobre dans son pays. Le point avec Dili Diko, notre correspondante à New York.
La troisième journée de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte avec le discours du chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CDAO. Il a rappelé dans un discours long d'une demi-heure les initiatives de la CDAO dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et réitéré l'engagement de l'organisation ouest-africaine dans le règlement de la crise politique au Mali.
Le Niger est convaincu que les nombreuses menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale ne peuvent pas être résolues par les États pris individuellement, mais par une action collective de la communauté internationale. Je voudrais à cet égard rendre hommage aux vaillants soldats de la paix et aux éléments de nos forces de défense et de sécurité aux côtés desquels ils sont tombés sur le champ d'honneur, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Nous nous félicitons du renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité au niveau national, de l'opérationnalisation de la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad et de la force conjointe du G5 Sahel. Pour un financement pérenne de celle-ci, je salue la proposition de notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui préconise de s'inspirer du modèle de la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom, et par ailleurs, la création de la coalition de lutte contre le terrorisme au Sahel, la mise en place d'un commandement conjoint pour toutes les forces participantes, dont Barkhane et Takuba, le déploiement prochain par l'Union africaine d'un contingent de 3000 hommes, les initiatives de la CDAO sont autant d'éléments qui suscitent l'espoir d'une victoire sur notre ennemi commun, le terrorisme et le crime organisé.
Proche de l'élection présidentielle le 27 décembre au Niger, M. Issoufou a promis la tenue pour la toute première fois d'élections démocratiques dans son pays. Il a également demandé l'annulation de la dette des pays en développement et rappelé l'importance de faciliter l'accès aux futurs vaccins contre le Covid-19 à toutes les populations. Alassane Ouattara, qui a suivi, s'est longuement penché sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'Afrique. Le président ivoirien, dont le discours était très attendu en raison de sa candidature visant à briguer un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre, n'a fait qu'une très brève mention des élections à la fin de son discours. Il a assuré que toutes les mesures seront prises pour des élections apaisées et transparentes à l'image de celles de 2015.
Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République. En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Je me réjouis de la participation effective de toutes les parties prenantes à ce processus et voudrais vous exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires, notamment les Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine, engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette consultation électorale. Cette élection intervient dans un environnement démocratique, consolidé par d'importantes réformes sociopolitiques et par des progrès économiques et humains indéniables qui font de mon pays une nation prospère et l'une des économies les plus performantes au monde.
Il y a aussi le président Roch Marc Christian Kabore du Burkina Faso, Denis Sassou Nguesso du Congo et surtout Alpha Condé de la Guinée, très attendu car lui aussi brigue un troisième mandat. Les présidents Ali Bongo du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Évariste Ndayi Chimiye du Burundi doivent s'adresser à l'Assemblée générale. Au programme de demain, il faut noter le discours de Paul Biya, président du Cameroun. Dilidico, VOA Afrique, New York.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin des dépôts de candidatures pour les élections législatives du 22 novembre au Burkina Faso. En début de semaine, c'était la course contre la montre car les candidats et partis politiques attendent souvent la dernière minute pour s'enregistrer. Ils évoquent à ce sujet plusieurs raisons. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Que vous voulez qu'on fasse ? Il faut bien qu'on ferme un jour.
Ces mots prononcés par le président de la commission électorale marquent la fin des dépôts des candidatures pour les prochaines élections législatives. Dans la cour de la commission électorale, ils sont des centaines de personnes, membres de partis politiques, à être présents pour ce moment tant important. Tous ces partis attendent la dernière minute pour déposer leurs différentes listes.
Vous savez, en Afrique, ce qui nous tracasse beaucoup, c'est la notion du temps.
Godsroy Bama, directeur du siège du PRD, le parti pour le rassemblement et la démocratie.
Et avec nos candidats qui sont un peu en profondeur et avec la crise sécuritaire, cela est vraiment une difficulté qui est réelle pour le convoi des dossiers sur Ouagadougou.
La situation sécuritaire est aussi pointée du doigt par certains responsables politiques, surtout ceux du Sahel. Aziz Diallo est le député maire de Dori dans le Sahel.
Nous, pour constituer la liste de l'Oudala, il a fallu même que ce monde-là se déplace à Dori pour pouvoir faire des documents administratifs avant de nous les envoyer ici à Ouaga. C'est qu'on a l'impression qu'on est toujours à l'époque de la pierre taillée, quoi. Quand même, aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des moyens, avec toute la technologie et tout ce qu'il y a, des moyens de simplifier ces procédures-là. On ne peut pas continuer à regarder tous les documents qu'on a mis. Mais il y a assez de documents ici pour sauver une forêt.
Le président de la CENI déplore cette situation de dernière minute des partis politiques. Ahmed Newton Barry.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour l'instant, comme chaque année, c'est toujours la dernière minute. Hélas, que les partis se présentent. C'est ouvert depuis le 17, mais c'est aujourd'hui finalement que l'affluence atteint le record que vous voyez. Bon, donc ça veut dire que, évidemment, à partir de cet instant, on a fermé les portes, personne ne peut entrer. Maintenant, on va prendre tous ceux qui sont à l'intérieur. C'est vrai qu'on est parti pour toute la nuit.
152 partis politiques, 30 regroupements d'indépendants et 6 formations politiques prennent part à ces législatives prochaines. Jusqu'à ce mercredi soir, la commission électorale n'avait pas encore pu faire le point des différents dossiers de candidature reçus. Après les législatives, la réception des dossiers pour la présidentielle, elle est prévue pour le 28 septembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les candidats républicains et démocrates à la présidentielle américaine font la une des médias, mais rappelons qu'ils ne sont pas les seuls dans la course à la Maison-Blanche. Il y a en effet d'autres candidats beaucoup moins connus, mais qui ont joué un rôle important dans le passé. Quel impact auront-ils cette année ? Elisabeth Lee de La Voix de l'Amérique se penche sur la question. Le récit est de Lionel Gaïma.
Il est bien connu que le président républicain Donald Trump fera face à l'ancien vice-président Joe Biden, qui est démocrate. Ce qui est moins connu, c'est que de nombreux candidats sont engagés à la présidence des États-Unis. Tad Carser est politologue à l'Université de Californie à San Diego.
Le Parti pour la paix et la liberté, le Parti indépendant américain, souvent les gens ne savent vraiment pas ce qui sont ces partis.
Les candidats de ces petits partis sont appelés candidats tiers. Cette année, les plus connus sont Joe Jorgensen du Parti libertarien et Howie Hawkins du Parti vert. Un autre candidat qui a fait la une des journaux est le rappeur Kanye West. Si les candidats tiers ne sont généralement pas considérés comme des sérieux prétendants, ils veulent jouer un rôle dans le changement de la dynamique d'une élection, ainsi qu'on l'a vu en 2016 dans le duel entre Donald Trump et Hillary Clinton. John Farmer, directeur de l'Institut Eagleton de l'Université Rutgers.
Il ne fait aucun doute en 2016 que les candidats indépendants ont fait du mal à Hillary Clinton. Tous les sondages à la sortie des urnes ont montré que les votes qu'ils exprimaient pour des candidats tiers étaient des votes qui, autrement, seraient allés aux démocrates.
Encore une fois, Tad Kauser de l'Université de Californie à San Diego.
2016 a été une année où beaucoup d'Américains n'étaient pas pour Donald Trump ni pour Hillary Clinton et ils ont fait des votes de protestation.
Seulement 2016 n'est pas 2020. Tad Kauser de l'Université de Californie à San Diego.
Il est très clair maintenant que les enjeux sont si importants et que Joe Biden ou Donald Trump pourraient être le prochain président et personne ne veut gaspiller son vote, si bien que les intentions de vote pour ces candidats tiers sont au plus bas.
La pandémie empêche également les candidats indépendants de prospérer sur le terrain. Il leur est difficile de faire campagne en personne. Par ailleurs, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour se payer les grandes campagnes publicitaires à la télévision. Mais le résultat d'une élection présidentielle aux États-Unis n'est jamais connu d'avance, particulièrement cette année.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En moins d'un mois, les États-Unis ont facilité deux accords de paix historiques au Moyen-Orient, le plus récent entre Israël et Bahreïn. Le premier avait été signé par Israël et les Émirats arabes unis. Dans l'esprit de la paix et de la coopération, Bahreïn a accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël. Les deux pays ouvriront des ambassades et vont échanger des ambassadeurs, instaurer des liaisons aériennes directes et lancer des initiatives de coopération dans une vaste étendue de secteurs, y compris la santé, les affaires, la technologie, l'éducation, la sécurité et l'agriculture. Israël a signé deux autres accords au cours des 72 dernières années, a dit le président Trump, ajoutant « Je suis très optimiste que d'autres suivront ». En effet, les accords d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn aident également à faire progresser les perspectives d'une paix équitable et durable entre Israël et les Palestiniens. Après des décennies d'instabilité et de crise, les conditions au Moyen-Orient se sont améliorées de manière significative au cours des trois dernières années, a dit le président Trump. J'ai rétabli la confiance avec nos partenaires régionaux et ensemble, nous avons éliminé le califat du groupe État islamique à 100%, isolé les radicaux qui ont perverti l'islam et sémé l'instabilité. Aujourd'hui, les nations à travers la région et le monde sont unies dans leur détermination à bâtir un avenir meilleur, libéré des maux perpétuant la terreur. Le président Trump a remercié les leaders d'Israël et de Bahreïn pour leur courage dans la conclusion de cet accord historique. Leur leadership prouve que l'avenir peut être rempli d'espoir et n'a pas besoin d'être prédéterminé par les conflits du passé. À mesure que plus de pays normalisent leurs relations avec Israël, ce qui se passera très rapidement, nous le pensons, la région deviendra de plus en plus stable, sécurisée et prospère. Les États-Unis continueront de se tenir aux côtés de peuples du Moyen-Orient alors qu'ils travaillent à bâtir un avenir plus radieux, plus optimiste.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.